Chapitre 3. Témoignage de feu Julia Hetman par la voix du médium Bayrolls. Je m'étais couché tôt et avais rapidement trouvé un sommeil paisible. J'en sortis soudain avec le sentiment indéfinissable d'un péril imminent, qui est, je crois, une sensation courante dans cette ancienne existence. J'étais bien persuadé que cette crainte n'avait aucun sens, bien sûr, et pourtant je ne parvenais pas à m'en défaire. Mon époux, Joël Hetman, n'était pas à la maison, et les serviteurs dormaient dans une autre partie de l'habitation. Mais c'était là une situation habituelle qui ne m'avait jusqu'ici jamais inquiété. Quoi qu'il en soit, cette étrange terreur devint si insupportable que je parvins à surmonter ma réticence à bouger, m'assis sur le lit et allumai la lampe de la table de chevet. Contrairement à ce que j'imaginais, cela ne me procura aucun soulagement. La lumière semblait plutôt ajouter au danger, car je me disais qu'elle se verrait sous la porte, révélant ma présence à l'être maléfique, quel qu'il soit, qui pouvait se tenir dehors. Vous qui habitez toujours un corps de chair, soumis aux horreurs de l'imagination, imaginez combien peut être monstrueuse la peur qui cherche dans les ténèbres un refuge contre les êtres malfaisants de la nuit. C'est comme se jeter au corps à corps contre un ennemi invisible, la stratégie du désespoir. J'éteignis la lampe et tirai la couverture au-dessus de ma tête. Puis je restai là, tremblante et silencieuse, incapable de crier, oubliant de prier. Je dus rester dans cet état pitoyable pendant ce que vous appelez des heures. Pour nous, il n'y a pas d'heure, car il n'y a pas de temps. Enfin, cela se rapprocha, un bruit léger, irrégulier, de pas dans les escaliers. Ils étaient lents, hésitants, incertains, comme si la chose ne pouvait pas voir son chemin, et dans mon esprit désordonné, cela était encore plus terrifiant, comme l'approche d'une malveillance aveugle et sans âme, contre laquelle il n'existe point de salut. Il me vint même à l'esprit que j'avais laissé brûler la lampe de l'entrée, et que les tâtonnements de la créature prouvaient qu'il s'agissait d'un monstre de la nuit. C'était la pure folie, et en contradiction avec la crainte de la lumière que je venais d'éprouver. Mais que voulez-vous ? La peur ne raisonne pas, elle est une idiote. Il n'y a aucun lien entre les sinistres indices qu'elle nous prodigue et les lâches conseils qu'elle nous murmure à l'oreille. Nous le savons bien, nous qui sommes passés dans le royaume de la terreur et qui errons dans un crépuscule éternel dans les lieux où se déroula notre vie antérieure, invisibles les uns pour les autres et même pour nous-mêmes, nous cachant mélancoliques dans les endroits solitaires, brûlant du désir de parler à ceux que nous aimons, mais muets et terrifiés par eux autant qu'ils sont terrifiés par nous. Parfois pourtant, la frontière disparaît, la loi est suspendue, la puissance éternelle de l'amour ou de la haine rompt l'enchantement, et nous pouvons être vus par ceux que nous voulons avertir, consoler ou punir. Sous quelle forme nous leur apparaissons alors ? Nous l'ignorons. Nous savons seulement que nous terrifions même ceux que nous voudrions réconforter et dont nous désirons le plus la tendresse et la sympathie. Excusez-moi, je vous prie, pour cette digression de celle qui fut autrefois une femme. Vous, qui nous interrogez par ce moyen imparfait, vous ne pouvez pas comprendre. Vous posez de folles questions sur des sujets inconnus ou des sujets interdits. La plus grande partie de ce que nous savons et pouvons vous dire dans notre langage n'aurait aucun sens dans le vôtre. Nous ne pouvons communiquer avec vous que par ces balbutiements, qui ne sont que la fraction de notre langage que vous-même pouvez comprendre. Vous pensez que nous sommes d'un autre monde, Mais non, nous ne connaissons pas d'autre monde que le vôtre. Même si pour nous, il ne comprend ni soleil, ni chaleur, ni musique, ni rire, ni chant d'oiseaux, ni aucune présence. Ô Dieu, quelle chose terrible que d'être un fantôme, de se cacher frissonnante dans un monde altéré, en proie à l'angoisse et au désespoir. Non, je ne suis pas morte de terreur. La chose a fait demi-tour et elle est partie. Je l'entendis descendre les marches, en hâte m'a-t-il semblé, comme si elle avait été elle-même en proie à une terreur soudaine. Alors je me suis levé pour appeler à l'aide. À peine ma main tremblante avait-elle trouvé la poignée de la porte que, Dieu me protège, je l'entendis qui revenait. Les bruits de pas qui remontaient l'escalier étaient rapides et lourds. Ils faisaient trembler la maison. Je courus me réfugier dans un coin de la pièce et me recroquevillai sur le sol. J'essayai de prier, j'essayai de crier le nom de mon cher époux. Alors j'entendis la porte s'ouvrir. Il y eut un intervalle de temps où je dus perdre conscience. Et quand je repris mes esprits, je sentis qu'on me serrait fermement la gorge. Je sentis mes bras frapper faiblement quelque chose qui me repoussait en arrière. Je sentis ma langue qui ressortait entre mes dents. Et je suis passé dans cette existence où je me trouve maintenant. Non, je ne sais pas ce que c'était. Ce que nous savons de notre vie passée se résume à la somme de tout ce que nous savons au moment de notre mort. Nous connaissons bien des choses sur notre présente existence, mais aucune lumière ne vient éclairer le passé. Nous ne pouvons lire que ce qui s'est inscrit dans notre mémoire. Il n'y a ici aucune montagne de vérité venant dominer ce confus paysage. Nous nous trouvons toujours dans la vallée des ombres, errant d'un endroit désolé à un autre, regardant depuis les ronciers ou les fourrés ses habitants déments et maléfiques. Comment pourrions-nous mieux connaître ce passé qui s'estompe dans le lointain ? Ce que je vais vous raconter maintenant s'est passé une nuit. Nous savons quand il fait nuit, car à ce moment vous rentrez dans vos maisons, et nous pouvons quitter nos cachettes pour nous aventurer sans crainte près de nos anciennes maisons, pour regarder par les fenêtres, et même entrer et contempler vos visages pendant que vous dormez. Je m'étais attardé longtemps près de la maison où j'avais été si cruellement changé en ce que je suis maintenant. Comme nous le faisons souvent tant qu'il y reste quelqu'un que nous aimons ou que nous haïssons. J'avais vainement tenté de me manifester par quelque moyen afin de faire savoir à mon époux et à mon fils que je continuais à exister, que je les aimais et que j'éprouvais pour eux une poignante pitié. À chaque fois, s'ils dormaient, ils s'éveillaient, et si, poussé par le désespoir, j'osais les approcher alors qu'ils ne dormaient pas, alors ils tournaient vers moi ce regard terrible des vivants qui, bien que j'aie cherché à l'attirer, me terrifiait pourtant et me détournait de mon but. Cette nuit-là, je les avais cherchés en vain, craignant tout à la fois de les trouver. Ils n'étaient pas dans la maison ni sur la pelouse sous le clair de lune. Car si le soleil est pour nous à jamais perdu, la lune, qu'elle soit pleine ou en croissant, est toujours là. Parfois elle brille la nuit, parfois le jour, mais toujours elle se lève puis se couche, comme dans notre ancienne vie. Je quittai la pelouse et allai sur la route silencieuse et blanche sous la lune, sans but et inquiète. Soudain, j'entendis la voix de mon pauvre époux qui poussait des exclamations de surprise et aussi celle de mon fils qui tentait de le rassurer et de le calmer. Et là, dans l'ombre d'un bouquet d'arbres, je les vis tout près, si près. Leur visage était tourné vers moi et mon époux me regardait droit dans les yeux. Il me voyait, enfin, enfin il me voyait. Lorsque je le compris, ma terreur s'évanouit comme un rêve cruel disparaît le matin venu. Le sortilège de la mort était rompu. L'amour avait vaincu la loi. Folle de bonheur, je criai, je sais que j'ai crié. Il voit, il voit, il va comprendre. Alors, me ressaisissant, je m'avançai, souriante et consciente de ma beauté, pour prononcer les mots qui allaient restaurer les liens brisés entre les morts et les vivants. Hélas, hélas, son visage devint blanc de terreur. Son regard était pareil à celui d'un animal traqué. Il recula tandis que j'avançais, et finalement, il me tourna le dos et s'enfuit dans la forêt. Où cela, il ne me fut pas donné de le savoir. À mon pauvre garçon, maintenant doublement abandonné, je n'ai jamais pu faire percevoir ma présence. Bientôt, lui aussi passera dans cette vie invisible, et alors il sera pour moi perdu à jamais.